L'eau potable. Dans certaines régions, il n'y a pas assez d'eau. Et ça va être la guerre pour l'eau. Pour certains pays comme Dubaï, ils font pleuvoir des nuages parce qu'ils manquent d'eau. Et même ici, en été, quand il y a la sécheresse, voilà, il y a pas mal de soucis d'eau.
Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. 2 heures chaque après-midi pour décrypter joyeusement notre époque à travers ses mots, ses expressions, ses enjeux. Et aujourd'hui, un enjeu de taille, car, à part peut-être pour Manon et Véronique Sanson, on parle d'un élément nécessaire à la vie. Bon, vous le tenez bien. Vous faites aussi Véronique Sanson.
Je fais ses cœurs quand elle
est. Vous êtes stupéfiant comme garçon, Quentin. Parmi toutes les ressources naturelles, elle est en passe de devenir la plus précieuse. Zoom aujourd'hui sur l'eau potable, un sujet extrêmement clivant au sein de l'équipe de Zoom Zoom Zen, puisque rappelons qu'outre Manon, qui elle est carrément allergique à l'eau, on l'a vécu en direct jeudi dernier.
Émis par les boîtiers Starlink. Des experts.
Manon.
J'ai vraiment en train de m'étouffer.
Merci.
Oh. J'ai vraiment de la peine pour moi.
Manon qui va tousser dans le couloir. On vous
envoie. Dans le couloir.
Dégagez.
À part Manon, notre rédacteur en chef non plus n'est pas très porté sur l'eau du robinet. Ce dry January, ça va trop loin. Bougonnet Cyril, qu'on lève le pied sur la picole, je veux bien, mais une heure entière à parler flotte, il y a des limites au wokisme. C'est là que, devant la désapprobation générale, j'ai précisé mon idée. Non, on va pas parler flotte. On va évoquer la question de l'eau potable à travers le nouveau roman de Gaspard Koenig, Aqua, qui est la suite de Humus, et non pas Humus, parce que moi je pense beaucoup à l'humus, parce qu'effectivement, je suis gourmand. Humus, son précédent roman sur la Terre, qui lui avait valu le prix Interallié. Oh mazette, c'est pas rien, s'était exclamé Cyril, chez qui l'évocation de l'Interallié avait visiblement fait mouche. 5 minutes plus tard, mes collègues étaient convaincus, on allait zoomer sur l'eau. D'où vient cette eau potable qui jaillit miraculeusement de nos robinets? Comment est-elle fabriquée? Car oui, spoiler alert, elle est fabriquée. Quel est donc ce scandale de la cristalline que dénonce Gaspard Koenig dans son roman? Manon survivra-t-elle à une heure entière d'émission consacrée à l'eau? Manon.
Je suis vraiment en train de m'étouffer.
Oui. On va essayer quand même. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et si, bonjour.
Ah, oui, si vous en avez l'occasion, allez déjeuner dans les jardins de l'Interallié. C'est hyper sympa.
Ah, c'est voilà, toujours placer une petite.
Ouais.
Vous êtes de tous les pince-fesses, Cyril. Vous êtes vraiment de toutes les coteries. C'est vraiment scandaleux. Bonjour Gaspard Koenig.
Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous sur Inter, Gaspard. Essayiste, romancier, homme politique aussi en 2022. Vous aviez été candidat à l'élection présidentielle. Vous auriez fait quoi à l'Élysée? Est-ce que vous auriez fait mieux que le locataire actuel?
D'abord, j'étais même pas candidat parce que j'ai pas eu le nombre de signatures suffisantes. Et j'aurais rien fait surtout. Je pense que les hommes politiques doivent apprendre à faire moins plutôt que de faire plus. C'est d'ailleurs tout mon programme. C'est pour ça que ça n'a pas marché d'ailleurs.
Oui, c'est peut-être pour ça effectivement. En tout cas aujourd'hui vous revenez avec ce livre absolument passionnant, Aqua, qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Un livre qui a donc pour personnage principal l'eau. C'est la suite de votre série sur les 4 éléments commencée en 2023 avec Humus, dans lequel vous avez, pour lequel vous avez remporté, je l'ai dit, l'Interallié et aussi le prix Jean Giono. Le prochain ça sera le feu ou l'air? Il est déjà dans les tuyaux.
Ah bah exactement, le prochain c'est l'air.
Ah c'est l'air, voilà.
Et puis on finira par le 5e élément, mais je n'ai pas encore trouvé.
Vous n'avez pas encore trouvé l'idée.
L'amour, peut-être.
Ah,
oui, d'accord. Ah.
N'inquiète pas. Manon fait semblant que ça l'émeut alors qu'elle n'a pas de cœur.
Là, je préfère l'amour à l'eau. Ça.
C'est juste que j'adore le film, voilà, d'avoir la ref, excusez-moi.
Très bien. En tout cas,
c'est fou, ça.
Pendant une heure, on va parler de cet élément essentiel pour l'instant, l'eau, et plus particulièrement l'eau potable au cœur de l'intrigue de votre dernier roman. Juste le temps de vous présenter 2 journalistes dont l'eau n'est jamais au cœur d'aucune de leurs intrigues. Manon Mariani, quant à lui, bonjour.
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 Bonjour à tous.
Mais si,
face à vous.
À la cantine.
Oui, à la cantine.
Il y a des pichets.
Face à vous, Gaspard, je suis encore sous le choc de ces images que j'ai vues sur son compte Insta ce week-end où, cédant à la mode du 2016 revival, il a publié des photos de lui à cette époque. Choqué car moi, en 2016, j'étais déjà un adulte, père de famille, alors que lui avait visiblement 8 ans. 8 ans et demi, tout au plus. Quant à ce bandana rouge à la Daniel Herrero, il mériterait presque que je vous retire 3 points au quiz, rétrospectivement.
Oui, voilà. C'était la mode.
Quentin, non, ça n'a jamais été la mode.
Ah,
ça n'a jamais
été la
mode. Peut-être, et alors,
ne
ça reste
pas
en
n'importe
France.
Quoi. Quentin, comme d'habitude, vous êtes allé faire réagir les passants à notre mot du jour. Alors, l'eau potable, ils y avaient déjà réfléchi.
On commence à se poser des questions dans la rue, à éduquer aussi, mais on a aussi nos petites préférences sur le goût des eaux. Manon, qui, pour des raisons de digestion, ne tourne plus qu'à l'épargne au bureau. Cyril, c'est la Contrex, il chantait encore hier, quand il y a Contrex, machin. Mais aurons-nous encore le loisir de comparer les goûts des eaux quand elle sera devenue rare? Vos réponses dans la prochaine demi-heure.
À vos côtés, Gaspard, choquée elle aussi par les stories 2016 de Quentin, Elle reviendra en fin d'émission sur cette tendance ridicule. Mais dans cette première partie, elle va rester concentrée sur notre thématique de l'eau potable, même si ça lui coûte, même si la dernière fois qu'un aubergiste lui a versé de l'eau à la place de son chablis, elle s'est écriée...
Ça brûle.
Oui, c'était pas facile. Manon,
je bois plus de chablis, bref.
Dans votre pièce jointe d'aujourd'hui.
Une femme qui a mis en lumière un véritable scandale d'eau polluée aux États-Unis, c'était dans les années 90, mais son nom reste très connu, notamment grâce à un film.
Suspense, suspense. Vers 16h30, comment ça se passait avant l'invention des égouts et du traitement des eaux? Réponse...
Quoi, ça pue ?
Mal. Dans le Zoom Zoom Test, nous partirons à la découverte de la gestion des eaux à travers l'histoire. Juste avant 17h, c'est Étienne Lautrette qui nous rejoindra parce que GC n'a, je le cite, pas d'avis sur l'eau. Après 17h, restez avec nous. On a un deuxième livre pour vous, Les Belles Promesses. C'est le nouveau Pierre Lemaître qui sera notre invité jusqu'à 18h. Mais d'abord, Gaspard Koenig, à quoi se passe, comme votre précédent roman d'ailleurs, en Normandie, une région où, dites-vous, il existe autant de mots pour désigner l'eau qui tombe du ciel que chez les Inuits pour décrire la neige. Donc c'était vraiment l'endroit idoine, la Normandie, pour parler de l'eau.
Oui, il y a la Drache, il y a la Bernaudet, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et justement, au début du roman, les Normands, ce qui est aussi un problème pour un écrivain, ne savent pas comment nommer l'espèce de mousson qui leur tombe sur la tête, parce qu'ils n'ont jamais vu ça, et quelque chose qu'on n'arrive pas à nommer, et quelque chose forcément d'inquiétant, d'inconnu, qui nous dirige vers un monde qui n'est plus familier, qui est nouveau, dont on ne sait pas à quoi il peut ressembler. Et c'était aussi l'occasion de rappeler que s'il va y avoir des problèmes de sécheresse, y compris en Normandie, et c'est pour ça que l'intrigue se passe en Normandie, parce que les Pyrénées-Orientales, on a l'impression que c'est très très loin, que c'est pour les autres, et que c'est pas très grave, mais le jour où il y aura des sécheresses en Normandie, c'est-à-dire des sécheresses, des ruptures d'approvisionnement en eau, tout d'un coup, on commencera à comprendre la gravité du problème. Et donc, c'est de rappeler que les sécheresses vont avec, évidemment, les inondations, et que la question n'est pas tellement le volume global des précipitations, qui va rester relativement stable, mais leur répartition qui va changer et qui va en fait détériorer et perturber tout le cycle de l'eau tel qu'on l'a connu depuis des centaines d'années. Donc pour ça, je me suis appuyé sur les prévisions du GIEC qui sont déclinées à l'échelle régionale sous forme du GIEC normand.
C'est ça qu'il faut dire, parce que c'est un roman, mais c'est extrêmement sourcé.
Bah, j'essaye d'être le plus proche possible dans mes romans de la réalité scientifique, que ce soit pour Humus, où j'avais beaucoup parlé avec les agronomes, là j'ai beaucoup parlé avec les hydrogéologues, de manière à donner à voir des choses qui sont très proches de nous. Donc c'est pas de la science-fiction, c'est une anticipation d'un an ou deux, enfin, c'est vraiment la société dans laquelle on est. Et ensuite, à partir de cette réalité très documentée, de mettre en scène des personnages, des histoires, des visions du monde différentes, des amours, des haines. Parce que c'est pour moi le roman, tel que je vois le roman naturaliste, c'est à la fois un roman qui parle de la nature, mais c'est un roman qui met en scène sa société, qui essaye de la comprendre et qui donne des armes aux gens aussi pour s'y retrouver et choisir ensuite les personnages auxquels ils s'attachent.
Et puis il faut dire à nos auditeurs qui n'auraient pas entendu parler du livre, c'est effectivement un roman. Nous, on a choisi L'Angle de l'eau parce qu'effectivement, ça traverse tout le roman, mais c'est un roman avant tout avec une histoire prenante. Et tout ça, il faut le dire aux gens qui ne pas confondre avec un essai, par exemple.
Oui, mais c'est-à-dire que maintenant, on a l'impression que les romans, c'est forcément des romans sur soi, romans sur son trauma. Mais c'est ça qui n'est pas un roman pour moi. Et un roman qui parle de la société, du monde d'aujourd'hui, c'est juste un vrai roman.
Lui non plus, l'eau du robinet n'est pas sa spécialité. Il l'a souvent prouvé en concluant sa chronique ainsi.
C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Cyril Lacarrière, chaque après-midi, vous remontez aux origines de notre sujet. Alors, racontez-nous, parce que c'est vrai qu'on va en parler pendant une heure. L'eau potable, d'où ça sort?
Imaginez le geste le plus banal qui est du monde. Vous avez soif, vous allez à votre évier, vous actionnez le robinet et magie, de l'eau claire, fraîche et sûre, coule dans votre verre. Vous le buvez sans même plus penser à comment elle en arrive là. Pourtant, pendant 99,9% de l'histoire de l'humanité, boire de l'eau courante, c'était la roulette russe. Ça pouvait vous hydrater, mais aussi vous coller le choléra, la typhoïde, voire une bonne vieille dysenterie. Ce miracle industriel, c'est l'histoire d'une guerre invisible gagnée contre la nature. Oubliez l'image de l'eau de source qui jaillit pure de la montagne, ça c'est pour le marketing. La réalité, c'est que l'eau potable, c'est un produit manufacturé.
Et tout commence dans les tranchées, Cyril.
Celle de Verdun. Comme les poilus meurent d'intoxication liée à l'eau qu'ils boivent, on invente la verdanisation. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement de mettre de la javel dans l'eau pour la rendre buvable. Alors c'est bizarre comme ça, on dirait un conseil de Donald Trump contre le Covid.
Ça ressemble à ça.
Je caricature bien sûr, mais à grands traits c'est ça. Et c'est la naissance de l'eau du robinet moderne, une eau désinfectée chimiquement. Depuis, cette eau potable est devenue l'aliment le plus contrôlé de France, un produit de haute technologie qui voyage dans des milliers de kilomètres de tuyaux sous nos pieds. Alors d'où ça sort l'eau potable? Eh bien d'une victoire de la chimie et de l'ingénierie sur les bactéries. Et c'est que le début d'une toute petite histoire.
Merci Cyril. Une grande histoire,
sinon
ça n'aurait pas de sens. Ouais. Merci Cyril. Gaspard Koenig, est-ce qu'on est d'accord là-dessus? L'eau potable, ça n'a plus rien de naturel en fait.
Oui, mais ce n'est pas forcément une victoire. Parce que la chimie, c'est elle aussi qui aujourd'hui pollue l'eau. Donc on la pollue énormément, notamment via les molécules qu'on met dans le sol dans le contexte de l'agriculture intensive. Mmh. Et après, on met plein de moyens pour la dépolluer derrière. On peut gérer l'eau de manière très locale, on appelle ça parfois aujourd'hui l'hydrologie régénérative, sans passer justement par ces systèmes très sophistiqués, à partir du moment où on sait d'où elle vient et où on en prend soin sur son territoire. Et évidemment, on est dans des conditions, on va par exemple être, comme c'est le cas dans le roman, en amont de sous-bassins versants, et donc on a une, on sait d'où vient l'eau, on contrôle directement l'eau qui abreuve notre territoire. Parce que, contrairement à l'imaginaire des tuyaux, justement, l'eau, c'est pas l'électricité. C'est-à-dire que vous pouvez pas, s'il y en a un qui en manque, en envoyer de l'autre côté du territoire à la minute. Et on a tendance à... Il y a des ingénieurs, aujourd'hui, c'est la logique ingénériale qui nous tue, qui pensent que l'eau, c'est de l'énergie. Donc, si on a des tuyaux, des châteaux d'eau, des pompes et des usines de dessalement d'eau de mer, au fond, on s'en fout, on va toujours arriver à la produire et à l'envoyer quelque part. Et en fait, ce dont je me suis aperçu en rédigeant ce livre et en faisant ces petites enquêtes, c'est que l'eau, ça reste toujours très local. C'est une ressource locale. Et même si vous ne vous en apercevez pas, parce que vous poussez le bouton de l'eau du robinet et que c'est toujours la même partout, en fait, c'est l'eau que vous buvez, c'est l'eau de pluie qui est tombée à quelques dizaines de kilomètres.
Ah oui, dans un périmètre
de là où vous êtes, ou peut-être, s'agissant de Paris, une centaine de kilomètres. Peut-être qu'elle est restée 10 000 ans dans des nappes phréatiques. Peut-être que c'est une eau qui date d'il y a 2 mois, mais c'est toujours de l'eau de pluie qui est tombée à côté. Et en fait, l'eau, elle nous reconnecte nécessairement à notre milieu immédiat. Et le jour où il y aura plus d'eau dans une ville moyenne ou une grande ville en Normandie, on s'apercevra qu'il n'y a plus d'eau parce qu'il n'a pas plu à côté. Et qu'ensuite, ça dépend de sa géologie. C'est-à-dire que quand on est, comme c'est le cas dans le roman, sur du granit, c'est une roche extrêmement dure, magmatique, donc ça veut dire qu'il y a très peu de réserves. L'eau n'est pas tout de suite à la mer. Donc le cycle de l'eau, là où je suis en Normandie, c'est 3 mois. S'il n'a pas plu en avril, mai, juin, en août, vous êtes à sec. On est passé en 2022 à quelques jours de la rupture d'eau dans cette région. Si vous allez un peu plus loin, vous êtes sur de la craie. Bon, la craie, c'est beaucoup plus perméable. Vous avez des nappes qui se forment et vous avez des réserves en eau. Et stocker l'eau, ça a toujours été... C'est pour ça qu'il y a ce débat sur les bassines aujourd'hui. Ça a toujours été l'objectif non seulement de l'humanité, mais des organismes vivants. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait de la vie sur la roche, sur la terre émergée, l'eau a coulé tout droit. L'eau ne fonctionne que par gravité. Elle n'a qu'une envie, c'est de revenir au niveau zéro. C'est d'aller vers la mer. Et les organismes vivants, dans les tuyaux qui nous composent, nous, dans nos corps, dans nos alvéoles, on stocke l'eau en permanence. Les organismes vivants stockent l'eau, les sols stockent l'eau, l'herbe stocke l'eau, et l'humanité, quand elle construit des villes, stocke l'eau.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Elle semble couler de source alors que pas du tout. Zoom sur l'eau potable cet après-midi dans Zoom Zoom Zen avec Gaspard Koenig qui revient avec son roman justement Aqua aux éditions de l'Observatoire. Alors il est temps d'entrer dans le pitch de ce livre. Ce roman raconte une bataille municipale autour de la gestion de l'eau. La commune de Saint-Firmin, un village normand de 500 habitants, possède une source. Et là c'est un de mes téléphones qui sonne, ce qui n'a aucun sens, c'est pas du tout professionnel de ma...
Un de vos téléphones.
Il y en a quatre.
Pas très professionnel de ma part.
C'est facile.
La commune de Saint-Firmin est un village donc de 500 habitants en Normandie. Une commune qui n'a pas manqué d'eau, et d'ailleurs la question ne s'est jamais vraiment posée, arrive un énarque qui propose de mettre en commun cette source avec la communauté de communes, et là s'engage un débat remporté par la candidate favorable à la gestion directe de la source. L'eau, c'est un thème qui devient central dans ces petites communes, ou au contraire, vous avez voulu montrer qu'on s'en préoccupait peut-être pas assez?
En fait, c'est un débat qui a lieu aujourd'hui, pour une raison assez technique, c'est que la loi exige le transfert de la compétence de l'eau de la municipalité aux intercommunalités ou aux communautés de communes. Et donc, il y a quand même un certain nombre de villages, surtout les villages de montagne, où les gens se sentent dépossédés d'une gestion séculaire. Et j'avais eu l'idée de ce livre en parlant à un élu corse, qui était un élu de montagne, et qui disait « Mais nous, cette source, on en prend soin depuis 2 millénaires ». On organise d'ailleurs le partage de l'eau selon le système des communs, c'est-à-dire qu'il y a des tours d'eau qui sont alloués aux gens en fonction de délibérations démocratiques relativement spontanées, c'est ce qu'on appelle les communs. Et il est hors de question que maintenant, cette eau aille alimenter les piscines des vacanciers de la côte. Voilà. Donc il y a des contextes où c'est plus sensible que dans d'autres, mais ce que j'ai réalisé tout d'un coup, c'est qu'on est à la fois avec un élément qui est mythologique, qui est vraiment premier parce que les gens ont été habités là où il y avait de l'eau, qui entourait évidemment de toutes sortes de légendes. Et pour écrire ce livre, j'ai été retravailler les légendes normandes autour de l'eau. Et c'est comme ça que j'imagine la naissance de Saint-Firmin, du saint qui trouve la source. Mais tout ça est inspiré par une collection de légendes très réelles. Donc on est à la fois dans un univers complètement poétique et mythique, et en même temps dans un univers ultra-administratif, bourrée de sigles, où plus personne ne comprend trop ce qui se passe, et où les sources, en fait, existent toujours. On a l'impression même qu'une source, qu'est-ce qu'une source ? J'étais voir des hydrologues pour dire, mais ça vient d'où une source ? Est-ce que ça a un fond, une source ? Pourquoi est-ce que l'eau est claire ou pas claire dans une source ? Et en fait, on ne les voit plus, parce que maintenant, une source, c'est marqué SCE sur la carte SIGEN, donc personne ne sait ce que ça veut dire. Il n'y a plus de chemin qui mène à la source. Et en fait, la source, elle a été murée dans des petits cabanons de béton qui sont interdits au public pour des raisons de sécurité sanitaire, pour que personne n'aille s'amuser à la polluer, etc. Mais donc, on ne la voit plus, la source. Et quand on y entre, ben, on s'aperçoit qu'en fait, elle n'est plus à l'air libre, elle n'est plus à la lumière, elle est sombre. Et on entend glouglouter, on voit l'humidité. C'est ça qui est important, c'est de se rendre compte de la matérialité en fait, de cet élément bah, qui ne vient pas du robinet, mais qui vient toujours de la bonne vieille source qu'alimente le village depuis des générations.
On découvre dans votre livre Aqua que depuis une loi de 1992, l'eau est considérée comme patrimoine commun de la nation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Non, c'est pas très bien ce que ça veut dire, parce que le problème, c'est que, c'est évidemment, ça part d'une très bonne intention, mais ça veut aussi dire que l'eau, en soi, est complètement gratuite pour tout le monde. C'est-à-dire que l'eau, l'élément eau, n'a pas de prix. Il est censé être disponible en abondance. Et ce qu'on paye, c'est pas l'eau. Ce qu'on paye, c'est les tuyaux, le traitement, etc. Et donc, ça en fait aussi une ressource, paradoxalement, parce qu'évidemment, c'est une loi bien intentionnée, mais paradoxalement, ça en fait aussi une ressource un peu... qui est toujours là, qui est naturelle, sur laquelle on ne se pose pas de questions, alors qu'aujourd'hui, se posent des problèmes graves de qualité de l'eau, puisque des différents scandales des minéraliers montrent, et de PFAS plus récemment, montrent que ce soit l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, en fait, il y a des molécules partout. Et maintenant, de manière moins encore conscientisée de quantité d'eau. C'est-à-dire qu'on va avoir des... Regardez ce qui se passe à Téhéran et à Ankara aujourd'hui. C'est des villes qui sont au bord de la rupture d'eau. Qu'est-ce que c'est qu'évacuer une mégalopole de plusieurs millions d'habitants parce que les gens ont tout d'un coup 3 jours d'espérance de vie parce qu'il n'y a plus d'eau? Tout d'un coup, on revient sur des choses très primales, alors qu'on est dans l'IA, on est dans, dans des réseaux hyper sophistiqués. Au Cap, je crois que c'est en 2018 ou en 2019, ils étaient tellement à sec que la municipalité avait mis au point un compte à rebours pour dire aux gens, regardez, il reste 3 mois pour inciter à économiser l'eau. Et finalement, ils sont passés juste. Donc on n'y est pas encore dans cet univers, mais en fait le dérèglement climatique va nous y mener assez vite.
Votre livre, c'est aussi une bataille entre citadins et ruraux, une bataille entre énarques et bon sens paysan. Est-ce que les deux sont antinomiques ou peuvent être complémentaires ? Vous dites qu'il ne faut jamais donner le pouvoir au premier de la classe.
Oui, ça c'est sûr que moi j'ai toujours pensé que si les énarques étaient moins intelligents, la France irait beaucoup mieux. parce qu'ils finissent par construire des cathédrales conceptuelles qui sont les seules à comprendre et qui échappent complètement aux citoyens qui est censé quand même être le décideur de base. Après, c'est un roman, donc j'essaie que ça ne soit pas binaire, notamment la mère un peu bobo qui est élue sur justement la promesse de récupérer l'eau et qui veut finalement, comme souvent les néo-ruraux, faire encore plus local que les locaux, encore plus traditionnel que les tradis.
Oui, il n'y a pas de gentil ou de méchant.
Voilà, parce qu'elle, elle se fait très vite dépasser. On s'aperçoit que ses bonnes intentions manquent aussi beaucoup de compétences techniques et que la vieille du village qui est censée incarner justement une forme de tradition, d'ancienneté, elle est tout pour le progrès, elle est pour l'énarque. Elle a dit c'est le progrès, il faut y aller parce que les gens qui ont 80 ans aujourd'hui, en fait, c'est des populations des 30 glorieuses qui considèrent qu'ils sont, qui ont vécu en fait l'absence de tuyaux, les fontaines et qui n'ont aucune envie d'aller porter des baquets et réutiliser 4 fois l'eau quand ils font la cuisine parce qu'ils l'ont vécu et qu'ils trouvent que le progrès, ça a quand même du bon. Donc c'est un roman qui essaye de mettre en place quand même tous les différents points de vue. D'ailleurs, l'énarque, au début, passe un mauvais quart d'heure dans le livre. Après, le personnage se complexifie et finalement, c'est peut-être lui qui apporte la solution. Donc, ça essaye d'entrecroiser tout ça en permettant au lecteur de décider pour lui-même.
Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il y a beaucoup de réflexion. Et vous, êtes-vous prêt pour le compte à rebours de l'eau potable quand on vous dira qu'il ne reste que 3 jours de potable? Quentin est allé vous parler d'eau dans les rues de Paris.
Je marche, Mathieu. En fait, non, je flâne. Je suis un flâneur, on va se l'avouer. Je regarde autant la rue que je l'enregistre. Et alors que mes pensées divaguent...
Salut, bonjour Quentin.
Bonjour.
Je suis un grand fan de l'émission et j'écoute tous les jours Zoom 12 quand je rentre du boulot.
Robert, quel est votre prénom ?
Junior. Alors, est-ce que Cyril, je veux juste savoir, est-ce que vraiment Cyril Lacarrière est de mauvaise foi et de mauvaise humeur tous les jours ?
Alors, si je dois faire le service après-vente, pas de problème. Oui. Mais, et tous les jours, ce qui est une performance, il découvre quand même, Junior, le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
L'eau potable. Que dire ? Moi, je bois l'eau du robinet.
Okay.
J'achète jamais d'eau en bouteille. L'eau chez moi, elle est pas trop mal. Et on ne sait pas ce qu'il y a dans les bouteilles, vu les scandales qu'il y a eu.
Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a dans le robinet ?
Oui, mais bon, l'eau, elle est gratuite, donc pourquoi avoir de l'eau gratuite et racheter encore de l'eau derrière ?
Une réflexion. Je lui demande pourquoi ça va vite devenir un enjeu ?
Un enjeu parce que dans certaines régions, il n'y a pas assez d'eau. Et ça va être la guerre pour l'eau. Pour certains pays comme Dubaï, ils font pleuvoir des nuages parce qu'ils manquent d'eau. Et même ici, en été, quand il y a la sécheresse, voilà, il y a pas mal de soucis d'eau. Parce que moi, je vais dans un village en vacances au Salel, en Lozère. Et dans ce village-là, on a déjà eu des pénuries d'eau. Et ils ramènent des citernes pour remplir le village. Ou sinon, ils distribuent des bouteilles. Donc pour les habitants, c'est compliqué.
Comment réagissent les habitants quand on manque d'eau, quand il y a une vraie pénurie ?
C'est la guerre. C'est la guerre parce qu'on a besoin d'eau pour tout, pour se laver, pour cuisiner, pour...
Oui, pour tout. Et on peut penser à la Lozère, mais aussi aux Pyrénées-Orientales qui subissent ces pénuries. Comme il me l'a confié avoir deux enfants, je lui demande s'il les sensibilise.
Économiser l'eau. On fait très attention à l'eau à la maison. On a une réserve, on a un récupérateur d'eau dans le jardin. Et on se sert de ça pour arroser. Et on fait très attention à l'eau en général, dans les douches, pour se laver les dents, on coupe l'eau. On en rabâche tout le temps, il faut faire attention à l'eau. Donc voilà.
Hey, salut Junior.
Salut Zen. Et t'es pas si petit que ça, tu fais la même taille que moi. Tu fais 1m60, combien ? Moi je suis 1m77. Donc Mathieu Noël, arrête de vanner Quentin et lui dire qu'il est tout petit.
Voilà, à bon entendeur.
Je ne vous ai jamais vanné sur votre taille, c'est
bien. C'est une blague. Enfin, c'est une blague.
Mathieu.
Oui, c'est une blague. Enchaîne.
Maëlle a 21 ans. Nous parlons des différents goûts de l'eau. Celle du robinet, celle en bouteille. Et pour Maëlle, l'eau n'a pas toujours le même goût.
Ouais, complètement. Moi j'ai une eau préférée, j'ai une marque préférée. Et ça, tu le sens vraiment au niveau de la minéralité, quoi.
C'est laquelle ?
La Volvic.
Ok.
Ah ouais, moi j'aime bien la Volvic, elle a un goût fort, donc je la bois en permanence.
Par rapport à une autre, on va citer une autre marque ?
Bah par rapport à... Je peux aussi de la Cristalline, mais par rapport à Evian, que je bois pas du tout par exemple.
Pourquoi ?
Je sais pas, j'y pense pas. C'est une question d'éducation, mes parents ils achetaient pas d'Evian, ils achetaient de la Volvic, donc j'achète de la Volvic.
C'est vrai que le rôle des parents dans l'eau est important. Ce jeune homme maintenant, sac à dos coloré, smartphone dans la main, il fait une story pour Insta dans les rues de Paris. Il découvre le thème qui nous intéresse aujourd'hui.
Alors l'eau potable, ça pourrait arriver à manquer. Là j'arrive d'Athènes et il se trouve que le réservoir qui s'appelle Mornos, qui est un lac à 4 heures de route d'Athènes, réduit de plus en plus, il y a de moins en moins d'eau dedans et pour les années à venir ça risque d'être un problème et ça pourrait manquer. Voilà.
Et il a un autre exemple dans ce pays qu'il affectionne.
Par exemple, dans les îles des Cyclades, il y a un problème d'eau potable. L'eau potable, elle est amenée par bateau parce qu'en gros, il n'y en a pas, c'est tout sec. Et il y a aussi un tourisme de masse avec notamment des piscines. Quand l'eau est en concurrence entre les piscines pour les touristes et l'eau pour les agriculteurs, en tout cas, ça pose question à
minima. Qui gagne ?
Alors, économiquement, j'ai peur que ce soit souvent les touristes. C'est la piscine qui gagne, c'est le tourisme qui gagne bien souvent, même si ça peut sembler paradoxal.
Ma dernière rencontre, c'est ce monsieur. Dans son anorak rouge, les cheveux en brosse, il est ingénieur dans l'informatique.
L'eau potable, pas à Paris.
Comment ça ?
Je ne boirai pas l'eau de la Seine comme j'ai bu l'eau des lacs en Suède.
Oui.
Avec la même confiance, le même degré.
Bon, excusez-nous de ne pas avoir bu à la source en Suède. Je lui parle de l'enjeu que ça peut devenir pour les futures générations.
J'ai 3 enfants. Ouais. Alors après, il y a de l'eau salée. Et les traitements de l'eau salée pour de l'eau potable
existent. Mais c'est très énergivore. Après,
c'est énergivore.
Est-ce que le fait de dessaler l'eau sauvera l'humanité ? Le technosolutionnisme comme dernier recours, donc ?
Je pense que... Effectivement, il y a une montée du prix de l'eau à prévoir, à moins que, et je pense qu'il faut aussi se remettre dans la condition d'humilité de l'homme, on n'a pas tous les critères. On voit par exemple que le dérèglement climatique fait qu'il y a plus de pluie parce qu'il y a de l'évaporation avec l'augmentation de la chaleur. Est-ce qu'on est capable de maîtriser la complexité de tous les scénarios, même avec des data centers ? Pas complètement. Je dirais juste qu'on va vers des prix de l'eau et une rareté de l'eau. Et effectivement, peut-être que ce sera le pétrole de demain. Oui.
Ces rencontres racontent dans la rue surtout notre rapport à l'eau. On apprend, on sensibilise, on commence à comprendre, mais on continue de croire que la planète bleue ne s'épuisera jamais. Aujourd'hui, on débat encore du goût. Demain, peut-être, on comptera les litres.
Même si je suis d'accord avec Maël sur cette histoire de Volvic. Gaspard Koenig, dessaler l'eau des océans, qu'est-ce que vous répondez aux technosolutionnistes qui pensent qu'on va trouver des solutions technologiques qui vont nous permettre de toujours avoir de l'eau ?
Alors d'abord, tout me parle dans les discours qu'on a entendus. Il y avait absolument tous les thèmes que je traite. Le dessalement, par exemple, Barcelone vit sur le dessalement d'eau de mer. Israël aussi, en grande partie. Mais c'est des solutions qui, un, sont très énergivores et qui, deux, rejettent des polluants dans la mer elle-même. Et donc, il y a quand même une raison pour laquelle l'humanité a quand même été au plus simple en se mettant, en allant habiter directement près des points d'eau. La quantité globale d'eau sur la planète, elle ne bouge pas. Le nombre de molécules H2O est toujours le même. Et d'ailleurs, la grande blague des hydrogéologues, vous voyez que vous avez du souci à vous faire, Mathieu, oui, parce qu'il y a de la concurrence du côté des hydrogéologues, c'est que dans la bouteille d'Evian que vous buvez là, d'ailleurs, je ne vous félicite pas, en plastique...
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est une erreur de ma part, alors que certains ont des gourdes.
Gourdes.
Tout le monde a une gourde.
C'est vrai.
Deux téléphones, mais une bouteille. Bon,
bah, dans cette bouteille, comme d'ailleurs dans vos gourdes, existent des molécules d'eau qui ont été également bues par Jules César et qui étaient dans le verre d'eau de Jules César.
Ah, je me disais bien.
Ah, le cycle de l'eau va jusque-là.
Parce que, en fait...
Ça, c'est la blague.
Chaque goutte d'eau contient tellement de molécules que, statistiquement, on retrouve forcément certaines molécules du verre d'eau de César ou de n'importe qui, de Napoléon Bonaparte ou de votre empereur préféré, dans l'eau qu'on boit. Mais ce qui veut dire aussi que, quand on dit que l'eau nous relie, c'est très physique, en fait, comme notion. C'est qu'on n'arrête pas de se passer les uns les autres la même substance, désolé de vous le dire.
Mais elle se dégrade pas, enfin c'est
bien de le dire.
Bah, les molécules H2O restent
les molécules H2O. Les molécules, c'est une molécule Quentin.
Et les petites gouttes suivent leur chemin dans les nappes et dans les nuages.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Déjà une demi-heure découlée et Quentin n'a toujours pas casé une imitation de Véronique Sanson. J'appelle ça une émission réussie.
J'ai tout brûlé comme la cigare.
Non, Quentin. À la réflexion, on ne sait toujours pas s'il imite Véronique Sanson, Vianney ou Maïté.
Oh non,
on va garder cette question pour un prochain blind test.
Non, mais c'est
précisément pour ça que je l'ai gardé.
Ça a duré étriqué en secret.
Au sujet de l'eau. Et puisque votre livre, Gaspard Koenig, s'appelle À quoi ? Ce quiz sera évidemment un blind test intégralement dédié au groupe À quoi ?
À quoi, Barbie ?
Non, je déconne, Manon. Vous êtes réjouis trop vite. C'est parti pour un quiz spécial histoire de la gestion. De l'eau, jouons au Zoom Zoom Test, un quiz sérieux. Un quiz qui démarre en 50 après Jésus-Christ. Ici, seul Cyril, qui était alors décurion dans la Légion romaine, s'en souvient. Et pour cause, à l'époque, Agrippa, un ingénieur romain, va superviser la construction d'un bâtiment qui aura, beaucoup plus tard, une grande importance sentimentale pour notre rédacteur en chef qui, rappelons-le, c'est important pour la question, omnivore, polygame et pansexuel. Ce bâtiment cher à son cœur, c'est,
même pas ce que c'est
le pont du Gard, où Cyril a rencontré Angèle, la future mère de ses enfants du soleil. L'aqueduc de Gières à Lyon, où Cyril a découvert le pâté en croûte, ou les thermes de Cluny à Paris, où Cyril a découvert une part de lui qu'il ne soupçonnait pas.
Bah les trois.
Non, moi je dirais A, le pont du Gard.
C'est une bonne réponse de Quentin Luynet. Ne cherchez pas la complication, Manon. C'est une bonne réponse de Quentin. Réponse A, ingénieux Agrippa, qui fut donc à l'origine du magnifique pont du Gard, aqueduc permettant d'amener l'eau d'Uzès à Nîmes. C'est aussi un des ouvrages d'art préférés de Pierre Courade, lui aussi sacré bâtisseur, mais de tunnels, ces fameux monologues d'érudition de comptoir qui nous infligent à tout bout de champ. Mais quittons le sud de la France pour l'Angleterre du XVIe siècle. N'en déplaise à Cyril, qui estime que, je cite...
C'est pas aux saloperies d'anglais à nous dire ce qu'on a à faire, bordel de merde. Je comprends pas. Moi.
Traduction, la France est une grande puissance qui n'a pas sans laisser compter par la perfide Albion. Néanmoins, il arrive par hasard sur un malentendu qu'un Anglais invente quelque chose de brillant. Je vous présente Sir John Harrington, l'un des 102 filleuls de la reine Elisabeth. John se fait remarquer à la cour par ses écrits provocateurs et son franc-parler, une sorte de Michel Onfray avant l'heure, si vous voulez. Mais il est aussi à l'origine d'une avancée technologique sans laquelle notre émission ne pourrait pas avoir lieu. Laquelle ? Le robinet ? Qui permet de remplir les verres de nos invités, ou les gourdes. La bouilloire, qui permet à Manon d'avoir sa dose de matcha quotidienne, vu que ça y est, annonçons-le officiellement, elle a basculé du côté obscur des bobos.
Et de calcaire, faut le dire.
Et ou la chasse d'eau, permettant d'évacuer les urgences intestinales de Quentin au moment de passer à l'antenne.
C'est, pardon.
Oh, le cri du cœur, Quentin.
C'est vrai, ça.
C'est terrible.
Moi, je dirais la bouilloire.
Oui,
ça fait chauffer l'eau,
vous,
non ?
Vous réfléchissez un petit peu, tandis que Manon écoute son instinct, elle a envie de se moquer de vous.
Oui.
C'est une bonne réponse de Manon Marianne.
Ah, j'en étais sûr.
Béni soit John Harrington, grâce à qui Quentin, dont le secret médical nous empêche de révéler l'embarrassante affliction, même si moi je sais, son proctologue m'a dit que c'est le syndrome du côlon irritable.
Mais arrêtez,
Sir John Harrington.
Je ne fais pas sur le lieu de travail.
John Harrington, grâce à qui Quentin peut donc arriver à l'antenne quasiment à l'heure, chaque après-midi.
C'est l'heure de retrouver toute l'équipe de Zoom Zoom Zen. Salut à tous.
Toute l'équipe ou presque, puisque Quentin est au cabinet.
C'est faux.
Mais vous étiez vraiment au cabinet,
non,
c'est fou.
J'étais dehors, puisque vous avez juste fait le passage d'antenne, c'était une émission enregistrée.
Oh là là.
Nous faisons pas. Quentin, vous mentez, puisqu'il n'y a pas de Zoom Zoom Zen enregistré.
Si, il y a eu un.
Comme quoi, vous voyez, Cyril, il faut arrêter de dire que l'Angleterre est un pays de merde. Vous avez aimé la perfide Albion du XVIe siècle, vous allez adorer celle du XIXe siècle. Car oui, en trois siècles, la musique anglaise a peu évolué.
Ah oui.
Toujours aussi chiante. Dirait Cyril, dont l'atavisme anti-rosebif s'explique. Son ancêtre, Childéric Lacarrière, ayant égaré ses attributs les plus précieux sur une baïonnette anglaise à Waterloo.
Ah, ça l'a coupé, chérie.
Mais retour donc à Londres en 1858. C'est une avalanche de son, aujourd'hui.
Ah ouais, vraiment, c'est...
La capitale anglaise vit un été caniculaire qui ne fait pas bon ménage avec les eaux usées. Un fléau qui pourrit la vie des londoniens. Ça fouette tellement que la Chambre des communes ne peut pas siéger. Cet été de tous les dangers restera dans l'histoire de Londres sous le nom de The Big Stink, la grande puanteur, The Nasty Summer, l'été dégueulasse, ou The Chili Con Carne Nightmare, le cauchemar du Chili Con Carne.
B. Non, mais vous l'avez dit pendant que Mathieu parlait.
The Nasty Summer. Le Nasty Summer, ça sonne bien, ça, Manon.
Mais j'ai dit B aussi.
Vous avez dit B aussi, dites autre chose.
Bah,
oh, bravo, Manon.
Non, ça va, ça
trop tard, c'est
dommage.
C'est trop tard. L'été 1858 à Londres fut surnommé The Big Stink. Et très curieusement, ce n'est qu'à partir du moment où les députés ont été incommodés que la décision fut prise de construire des égouts à grande échelle. Le Chili Con Carne Nightmare est quant à lui le surnom que les services sanitaires de Radio France ont donné à la journée maudite où Cyril avait bouché les toilettes du 6e.
Et justement, il était passé par notre bureau avant.
Et justement, on finit ce quiz à une époque où c'était tous les jours le Chili Con Carne Nightmare.
Oh. Quoi, ça pue ?
La France du Moyen-Âge. D'après vous, Manon Quentin, quel produit miracle utilisait-on pour limiter la putréfaction de l'eau au Moyen-Âge ? De la chaux vive ? Du gros sel ? Ou du vinaigre ?
Oh, purée.
Oh, c'est dur.
B.
La purée, c'est pas partie des réponses.
Gros sel.
Du gros sel, très bien.
C.
Du vinaigre ?
Pourquoi pas ?
Ah !
Ça doit piquer !
Ça piquait ! C'était surtout la réponse A.
Ah bah...
Mode gai savoir activé, au Moyen-Âge, la chaux vive était utilisée pour assainir les eaux quasi stagnantes des douves polluées par les déjections des latrines et permettait, grâce à son pouvoir bactéricide, de limiter les odeurs et les risques d'infection pour les habitants du château. Et selon mon auteur, elle permettra aussi de se débarrasser du corps de Pierre Courade la prochaine fois qu'il l'appellera Gérard. Vive l'eau ! Et victoire ! Alors c'est une...
C'est une égalité !
D'égalité.
Ça fait du bien aussi.
Une égalité dans la nullité. Précisons-le, ouais. Il n'y a pas eu beaucoup de bonnes réponses.
Bah, y a eu
Ouais. Rien que de l'eau de le puits, de l'eau de là-haut. Zoom sur l'eau potable avec l'essayiste Gaspard Koenig qui sort Aqua aux éditions de l'Observatoire. Votre roman concentre tous les problèmes liés à l'eau, notamment évidemment la pollution. La nouvelle maire du village de Saint-Firmin découvre que l'eau du village est polluée. Elle contient du nitrate, c'est le principal polluant des eaux souterraines. D'où elle vient cette pollution au nitrate ?
Alors d'abord, je pouvais pas. L'eau, elle est polluée par des centaines de molécules aujourd'hui. Exactement. Mm-hmm. Et donc, pour les besoins du roman et pour simplifier un peu la situation, j'ai mis que les nitrates. Et en l'occurrence, les nitrates viennent des épandages d'engrais par le gros agriculteur du village, Jobard, qui se trouve être aussi l'ancien maire qui voulait placer son neveu, qui est l'énarque maintenant.
L'énarque.
Vous avez tout le scénario, voilà. Et donc, comme c'est pollué, il faut dépolluer. Et puis, comme il y a des quand tout ça est géré par des grandes superstructures, par l'interco, on s'en fiche. Il y a des gens qui payent pour faire ces usines, on ne sait pas trop qui. Et du moment que l'eau testée au robinet est bonne, tout va bien. Le problème, c'est que, aujourd'hui, vous avez une part significative de l'eau en France qui dépasse les seuils de nitrate, qui est, de 50 mg par litre. D'ailleurs, chacun peut regarder sur une appli qui s'appelle l'ISO.
On peut voir l'eau près de chez soi.
Vous tapez le nom du village et vous avez les résultats de l'ARS qui vous donne le taux de nitrate dans votre eau. Et effectivement, c'est une des plus grosses pollutions liées à l'agriculture, mais ça peut se résoudre aussi. C'est-à-dire que quand on sait quel champ est autour des aires, des périmètres de captage, c'est-à-dire là où l'eau tombe, et fini dans les nappes ou et puis effectivement dans la source, eh ben on pourrait demander par exemple aux agriculteurs sur cette zone de passer en agriculture bio pour ne pas avoir à faire avoir le coût de la dépollution.
Ça paraît être le bon sens, c'est pas le cas aujourd'hui.
C'est pas le cas aujourd'hui. Alors d'abord, il y a des municipalités dont Paris ont quand même réussi à convertir un grand nombre d'agriculteurs exactement pour cette raison. C'est une pratique qui se répand de plus en plus, éventuellement en leur donnant des subventions, en les intéressant au sujet. Mais dans mon village, on parlait de la guerre de l'eau. À un moment donné, c'était un des gens qui était interviewé dans le micro-trottoir qui parlait de la guerre de l'eau. Mais quand on est face au problème et que c'est sa santé qui est en jeu et qu'il n'y a personne pour venir vous sauver, qui est un peu le scénario final, la guerre peut se transformer en paix quelque part parce qu'on est obligé de trouver des solutions entre nous. Et là, le problème, c'est qu'on ne se parle pas, on ne sait pas d'où vient l'eau, c'est toujours la faute de l'autre et donc on va appeler tel organisme pour faire vérifier l'eau, pour envoyer l'OFB, l'Office français de la biodiversité, pour tester, pour interdire. Mais si on n'a pas le choix, on va bien être obligé de s'arranger. Et en fait, c'est ça qu'on appelle les communs. Et c'est pour ça que Inger Ostrom, qui est la grande théoricienne des communs, parle de l'eau pendant la moitié de ses ouvrages. C'est qu'autour de la gestion et du partage de la ressource en eau que les premières démocraties, en fait, ont été fondées, parce que c'est de ça qu'on parlait dans les assemblées de villages.
Comment vous jugez le niveau de contrôle de nos ressources en ce moment d'eau en France ?
Alors, plus j'ai avancé dans cette recherche, moins j'ai compris, en fait.
Et c'est inquiétant.
Les scientifiques eux-mêmes expliquent que les paramètres d'eau potable sont des paramètres réglementaires, qui ne sont pas des paramètres sanitaires. Que quand on change le curseur, bah, tout d'un coup, on trouve des, qu'on va chercher d'autres molécules, bah, tout d'un coup, on trouve. Dès qu'on s'est mis là, récemment à chercher certaines catégories de PFAS, on en a trouvé dans, je ne sais plus si c'était 20 ou 30% des eaux. En fait, je pense qu'il faut partir du principe que toutes les eaux aujourd'hui sont polluées. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau pure. Ce qui est quelque chose de métaphysiquement quand même assez fort. Bachelard disait que ce n'est pas l'eau qui est pure, c'est la pureté qui est eau. C'est-à-dire que notre idée de pureté, y compris notre idée symbolique de pureté, vient de ce liquide qui est le solvant universel et qui est censé tout nettoyer. Or, aujourd'hui, quand on prend une goutte d'eau qui tombe sur le plateau du Tibet ou au pôle Nord, on s'aperçoit qu'il y a dedans des PFAS et des microplastiques. Donc, ne cherchez plus. Il n'y a plus une seule goutte d'eau au monde qui n'est pas contaminée.
Y compris celle qui était dans la bouche de Jules César.
Par les activités humaines. Et peut-être qu'on peut... Bah, Jules César avait la chance de boire une eau
qui était
une eau pure.
Vous parlez dans votre livre de cristalline. Tout le monde connaît ces bouteilles d'eau. Évidemment, c'est quoi le problème avec cristalline?
Ah non, mais alors d'abord, je tiens à dire, pour des raisons juridiques, que c'est dans la bouche
d'une de mes personnages
et que je salue mon éditrice pour avoir eu le courage de maintenir la marque, alors que la première chose qu'on vous dit, c'est enlever les marques. J'ai dit, écoutez, c'est un roman réaliste, on parle du préfet, j'ai le droit de vous critiquer, Mathieu Noël, parce que le droit de la diffamation fait que, globalement, je ne serai jamais condamné pour ça. Et pourquoi est-ce que les marques, on n'aurait jamais le droit de les nommer?
Donc vous êtes battu pour garder le nom.
Pas beaucoup battu, mais j'ai argumenté. Et il se trouve que cristalline, c'est une eau de source. Et ce que je voulais juste illustrer, c'est la différence entre les eaux minérales, qui viennent puiser dans des sources particulières, qui ont effectivement, comme le disait une auditrice, un certain goût, parce qu'il y a un certain taux de minéralisation, et bon, qui peuvent être par ailleurs polluées. Hein, c'est le grand scandale Nestlé. Mais enfin, qui ont une raison d'être quelque part, parce qu'elles viennent d'un endroit très particulier, qui a certaines qualités historiques. Bon. L'eau dite de source, en fait, c'est une eau qui est prélevée dans plus d'une trentaine de sources différentes sur le territoire français. Et ce qu'on appelle une source, c'est tout simplement une nappe qui sont globalement les mêmes nappes que vont utiliser
les municipalités.
Donc ce que je veux simplement dire, c'est que les eaux dites de source utilisent à peu près les mêmes processus que les différentes municipalités, c'est-à-dire elles prennent de l'eau, elles la dépolluent, et ensuite elles la traitent, et ensuite elles la mettent en bouteille plastique, et elles nous font croire que cette eau est moins chère. Alors qu'en fait, elle est 100 fois plus chère que l'eau du robinet, qui est moi l'eau que je consomme, parce que c'est aujourd'hui une des plus sûres.
Est-ce que votre travail sur ce roman, votre travail d'enquête en amont, a changé vous, Gaspard Koenig, la manière dont vous consommez de l'eau? Est-ce que vous buvez différemment aujourd'hui?
Comme je vous disais, en fait, il m'a fait comprendre que on est tellement perdu, on ne sait tellement plus quel filtre utiliser, quelles molécules sont présentes, qu'on abandonne un peu, qu'on laisse ça au fil de l'eau, si je puis dire.
Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette gourde alors?
Dans cette gourde, il y a de l'eau du robinet que j'ai mis dans une carafe qui est munie d'un filtre.
Ah oui.
Bon, mais alors après, on va sur les sites, est-ce que c'est le bon filtre? En fait, pour être absolument sûr, il faut faire de l'osmose inverse, qui est un processus très cher, mais qui est disponible pour les particuliers. Et en fait, l'osmose inverse, elle enlève en fait tout ce qu'il y a dans l'eau. Donc derrière, il faut la reminéraliser. Donc
c'est très long, quoi.
Un peu n'importe quoi. Voilà, donc après tout, on est tous dans la même situation aujourd'hui, tant pis, c'est le destin, quoi.
C'est le destin,
la mort fatie.
Ça sera effectivement la mort fatie. Vous écoutez France Inter, il est 16h47. L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Une femme aujourd'hui, elle a un nom que beaucoup connaissent grâce au cinéma, mais son histoire, elle est bien réelle, Erin Brockovich. Au début des années 1990, Erin Brockovich travaille comme assistante dans un cabinet d'avocats en Californie. En classant des dossiers immobiliers concernant la petite ville de Hinckley, dans le désert californien, elle remarque la présence inhabituelle de documents médicaux. Alors, elle n'a aucune formation en droit, mais elle commence à enquêter de son côté. Elle appelle les habitants concernés, elle se rend chez eux pour recouper leurs témoignages. Grâce à son travail d'investigation, elle établit petit à petit un lien entre les maladies graves contractées par certaines de ces personnes, comme des cancers ou des troubles chroniques, et la qualité de l'eau potable. L'enquête l'amène à Pacific Gas and Electric, l'un des plus gros groupes énergétiques américains. Pendant des années, l'entreprise a utilisé du chrome pour protéger ses installations industrielles. Ce produit est toxique, les eaux usées ont été stockées dans des bassins non étanches. La pollution s'est infiltrée dans les nappes phréatiques, celle qui alimentait donc la population. Alors à l'époque, l'entreprise affirme que les niveaux, évidemment, ne sont pas dangereux, alors que les habitants, eux, estiment avoir été exposés pendant des décennies. Alors après plusieurs années de procédure, l'affaire se conclut en 1996. L'entreprise accepte de verser 333 millions de dollars à plus de 600 plaignants. C'est à ce moment-là l'un des plus importants accords civils jamais conclus aux États-Unis dans une affaire de pollution. pollution industrielle. Cette affaire propulse Erin Brockovich. Hein, après l'accord de 1996, elle devient consultante indépendante sur des dossiers de pollution de l'eau aux États-Unis. Elle travaille aux côtés de cabinets d'avocats sur d'autres affaires environnementales. En 2001, elle publie son livre autobiographique dans lequel elle raconte l'affaire de Hinckley et sa méthode d'enquête. Un best-seller, sa notoriété la transforme en figure publique de la justice environnementale, régulièrement sollicitée par les médias, mais évidemment aussi contestée par des industriels qui mettent en cause ses conclusions et surtout son rôle. Et puis évidemment, son histoire devient connue dans le monde entier grâce au film de Steven Soderbergh sur son histoire qui sort en 2000. Elle est interprétée par Julia Roberts, hein, qui remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle. Une nouvelle consécration pour le travail d'Erin Brockovich.
Mais merci Manon, prendre conscience qu'Erin Brockovich, le film est sorti il y a 26 ans, me fout un sacré coup dans la nuque.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Il est réputé pour ses avis tranchés. Pour lui, l'invention de la télécouleur en 70 n'a eu aucun effet. Le monde est noir et blanc. Il y a les choses formidables, la chanteuse Santa, les enceintes de vélo et le pain perdu. Et puis il y a les choses affreuses, intolérables, qui ne devraient même pas avoir le droit d'exister. Les brioches façon pain perdu, le cap vert et les bébés mexicains sont cons. Heureusement, il est plus nuancé. Quand vient l'heure de sa chronique, Pierre Corrade, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit sur l'eau en une minute chrono.
Ouais, comment ne pas être nuancé avec un sujet aussi fade sur le papier que l'eau potable. Notre invité Gaspard Koenig, le JFK de l'édition, on a quand même tiré un livre passionnant de plus de 445 pages faisant de l'eau un élément romanesque. Et grâce à lui, on a su un petit peu plus sur ce liquide vital qui est malheureusement de moins en moins naturel. Car oui, même s'il s'agit d'un roman, il est extrêmement sourcé, sans mauvais jeu de mots évidemment. Ah. Gaspard Koenig nous a expliqué que l'eau que l'on consomme est de plus en plus fabriquée, polluée par des centaines de molécules. On doit lui ajouter d'autres produits chimiques pour la dépolluer. L'autre problème, c'est de pouvoir stocker cette eau. On l'a un peu trop vite oublié, on croyait jusqu'à présent en une abondance de cette ressource, mais le dérèglement climatique nous met face à des situations de sécheresse, même bientôt en Normandie où se passe le roman de notre invité. En fait, la nature nous rappelle que l'eau est un élément très local, on consomme l'eau de pluie qui est tombée à seulement quelques kilomètres de notre robinet. Elle est en même temps dépendante des sols, ce qui pose aujourd'hui le problème de la répartition au centre du roman de Gaspard Koenig. Une solution aujourd'hui, c'est la technique de l'hydrologie régénérative qui vise à restaurer le cycle de l'eau. Chez Manon, c'est toujours le même, de la carafe à son verre de Ricard.
Merci Pierre pour cette belle image. Le reste est dans le livre de Gaspard Koenig.
C'est drôle parce que c'est
cruel, vrai. Manon, vous êtes cruel. À quoi le dernier roman de Gaspard Koenig, c'est aux éditions de l'Observatoire. Étienne Lautrette, aujourd'hui, vous l'avez remarqué, car vous êtes observateur, nous parlons du roman de Gaspard Koenig qui traite du thème de l'eau potable.
Tout à fait, et pour parler d'un roman sur l'eau, j'avoue que j'ai été le premier étonné qu'on fasse appel à moi. Hein. Je veux dire, si vous aviez écrit une BD sur les tech paf, j'aurais été votre expert. Mais là... Alors cela dit, je ne lis pas beaucoup, mais je suis pas complètement con non plus. Hein. J'ai quand même passé le bac de français en 2006 et aussi en 2007 d'ailleurs. Et oui, j'ai fait semblant d'avoir lu le Père Goriot sous Chirac et sous Sarkozy. Voilà, c'est fait partie de mes exploits. Après, ça m'arrive de lire quand même. Hein. J'ai quand même lu le dernier Patrick Sébastien. Hein. On l'a reçu aussi d'ailleurs. Vous n'êtes pas le seul homme de lettres qui est venu sur ce ciel, n'est-ce pas ? Un livre qui s'appelle Le dernier qui tire sur mon doigt est une vraie gonzesse. Et alors, pas de surprise, c'est un véritable pamphlet anti-woke. Hein. D'ailleurs, petit clin d'œil au milieu du bouquin, il glisse un fascicule qui s'intitule 50 recettes à faire sans woke. Voilà. Trop marrant. La couverture, c'est une photo de Patrick qui tire sur ses yeux pour faire le chinois. Enfin bref, en trois mots, c'est génial, putain. Et cet été, j'ai aussi lu le dernier Marc Lévy, figurez-vous. Bon, pas mal celui de cette année, hein, quoique un peu classique. Hein. C'est une histoire d'amour entre une jeune femme et un fantôme que personne d'autre qu'elle ne peut voir, mais qui quand même éjacule du vrai sperme dans la vraie vie. Hein. Voilà. Ah oui, il faut changer les draps quand même. Hein. Bon bref. Mais assez parlé de romans érotiques, ici on parle de vraie littérature. Votre livre, à vous Gaspard, n'a rien à voir avec du porno, n'est-ce pas, hein. On rappelle le pitch quand même. Martin Jobard, haut fonctionnaire, décide de briguer la mairie d'un village. Se dresse face à lui Maria, la généreuse tenancière de l'épicerie. Et pour défendre ses intérêts, elle est prête à tout. Oh Maria, vous êtes délicieuse. Cette bouche que vous avez là, c'est une véritable bouche à clé. Oh monsieur Jobard, que cette métaphore est bien trouvée. Car oui, très peu de gens savent que la bouche à clé est le véritable nom du dispositif de protection et d'accès des vannes sur le réseau d'eau potable. Comme quoi Maria, il a lu peu de bouquets, le nouvel humoriste, mais on sent qu'il a fait ses études dans les travaux publics. Allez, assez parlé Jobard, foutez-la moi dans le collecteur d'eau usée. Alors, à quoi c'est donc un roman qui alerte sur les enjeux liés à la gestion de l'eau, hein, et tout ce que ça cache, tout ce qu'on n'imagine même pas. Mais vous y repenserez tous à la cantoche quand vous boirez de grandes gorgées d'eau pure payées avec nos impôts dans vos verres d'Uralex. C'est les verres au fond desquels on peut lire son âge, là. Alors d'ailleurs, je précise, c'est pas vraiment son âge, hein, qu'on peut lire. Faites attention, le jour où on verra un avocat faire sa plaidoirie en disant « Votre honneur, sur son verre, il y avait écrit 26. Comment mon client aurait-il pu savoir que la petite en avait que 13 ?» Ce jour-là, on se dira « ça sent pas bon pour Yannick Agnel, cette histoire. Hey » Hé, Gaspard Koenig, Yannick Agnel, les amateurs de flotte se régalent cet après-midi sur France Inter. À quoi c'est aussi un roman qui traite de la lutte des classes au travers de la trajectoire sociale de ses personnages. Vous savez ce que ça veut dire, ça, Gaspard ? Que vous êtes bon pour une adaptation à succès au cinéma avec Christian Clavier ! J'ai même le titre, La goutte de trop ! La comédie de l'année avec Christian Clavier ! Ah non, mais c'est pas vrai ! Ah non, mais c'est dingue ! Qui m'a mis de l'eau partout ! Alban Ivanov avec une perruque ! Ah bah moi, savez, je fais qu'est-ce qu'on me dit qu'il faut que je fasse, hein, monsieur Jobard ? Cet été, il va y avoir de l'eau dans le gaz !
On a hâte de voir ça en salle, merci beaucoup. Étienne Lautrette, on vous retrouve très vite dès la prochaine défaillance de GC qui ne devrait pas tarder dans Zoom Zoom Z. Je précise que les meilleurs passages de votre chronique sont... Vous avez pris quelques libertés par rapport au texte de Gaspard Koenig.
Ouais, je l'ai lu qu'une seule fois. Je dois avouer, je l'ai vu qu'une seule fois, le bouquin.
C'est parce que j'ai vu les accents de Paris, ils sont pas l'accent provençal.
Pour Étienne, c'est bon.
Lui, il est loin.
Merci. Merci, Gaspard Koenig, d'avoir zoomé avec nous sur les enjeux de l'eau potable. Manon, un dernier mot. Merci, on a l'idée. Zoom, zoom, zen.